Le plan du cours d'aujourd'hui, il est divisé en trois parties assez sommaires. La première, c'est une petite intro au terme de zététique, qui est peut-être pas familier pour tout le monde. Zététique que j'ai sorti au mot autodéfense intellectuelle. Et puis, je vous parlerai des champs d'investigation classiques. C'est pour vous donner un peu des idées de ce qu'on survole, de ce qu'on survolera et d'éventuellement des thèmes que vous pourriez choisir. Et puis quelques bases épistémologiques, de quoi mettre les mains un peu dans le cambouis de la réflexion critique sur ces sujets. Voilà, ça vous va le deal? Je suis navré de ne pas pouvoir prendre vraiment, sauf si, par exemple, il y a un mot qui est très compliqué que j'ai utilisé, qui n'est pas très clair, vous levez la main et peut-être que je prendrai la question, quoi. Mais pour que ce soit facile pour ceux qui filment, pour les camarades qui filment, je préfère qu'on repousse les questions sur la fin. Ça vous va comme ça? C'est pas trop contraignant? Merci à vous. Alors, zététique, bon... Le mot, il n'est pas nécessaire en soi, mais il commence à être tellement connu qu'autant le définir. C'est un vieux mot grec, enfin ça vient d'une racine grecque, zétein, qui signifie chercher, examiner, percer la raison des choses. Le type qui avait porté cette école, qui a été appelée l'école sceptique, était un type qui s'appelait Pyrrhon, qui venait d'Élis, et donc on l'appelle Pyrrhon d'Élis. C'était un type qui défendait une démarche critique permanente et radicale, c'est-à-dire qu'il pensait qu'on pouvait rien savoir sur rien dans le monde, et qu'il fallait toujours douter de tout, même de lui-même. Alors il doutait de lui-même, il doutait de ce qu'il pensait, il doutait de... La légende dit qu'un jour, il se promenait dans un parc, il y avait un arbre devant lui, il a dit « je doute même de cet arbre », il aurait avancé vers l'arbre, il serait cogné dedans. Enfin, donc les critiques se moquent de lui, et c'est vrai que c'est un doute radical, un peu caricatural, et nous, dans la version un peu moderne, on l'a un peu amélioré, enfin, il a été un peu amélioré, ce mot zététique, pour être un peu plus précis, et plus précis notamment, on va dire le sens moderne, c'est à l'orée des années 80, et ça a recouvert, si vous voulez, la méthode scientifique d'investigation des phénomènes réputés étranges, paranormaux, surnaturels, extraordinaires, etc. Et par extension, petit à petit, on se rend compte que le matériel qu'on utilise pour décortiquer ça est à peu près le même que celle qui est nécessaire pour décortiquer les pseudosciences, les pseudomédecines, les pseudo-histoires, etc. Ou les négationnismes historiques, les complotismes et autres. Donc les deux personnages peut-être que vous retrouverez dans la littérature, c'est un monsieur qui s'appelait Marcello Truzzi, qui est décédé il y a presque une quinzaine d'années maintenant, italien, enfin, états-unien d'origine italienne. Je précise états-unien parce que américains, ben, les Mexicains sont aussi américains, les Canadiens aussi, les Guatémaltèques aussi, et donc américains, c'est un trop gros paquet. Et donc états-unien, c'est les gens des États-Unis, c'est le gentilé des États-Unis. Et puis vous avez le professeur Brock qui est parti à la retraite il y a un an et demi, deux ans, et qui était au laboratoire, un laboratoire qui portait le nom de zététique, justement, c'était le seul au monde d'ailleurs qui s'appelait comme ça, et qui a fermé ses portes, qui était à l'université de Nice, Sophie Antipolis, et ça a été mon co-directeur de thèse. Henri Brock, un personnage très sympathique, plutôt raide dans la forme, mais extrêmement talentueux et précis dans ses références. Voilà sa petite tête à Henri. Pourquoi, dans les années 80, la zététique vient à la mode? Alors, vous pouvez l'appeler par un autre mot, vous pouvez l'appeler science, en fait, science appliquée à des sujets controversés, si vous voulez, vous pouvez l'appeler méthode sceptique. Les anglo-saxons utilisent le mot sceptique plutôt, d'ailleurs, scepticisme ou scepticisme avec un C ou avec un K, selon s'ils sont états-uniens ou anglais ou australiens. Mais peu importe, l'arrivée de cette réflexion sur une méthode scientifique d'investigation de ces sujets-là, c'est fortement lié à l'arrivée des postes de télévision. Dans les foyers, quoi. Alors qu'avant, des prétentions un peu extraordinaires ou bizarres restaient plutôt dans le giron familial ou dans le giron du petit village ou du quartier, d'un seul coup, la télévision arrivant dans les foyers, eh bien, l'audience donnée à des prétentions incroyables prenait une dimension assez nationale, voire internationale. Et l'exemple qui peut-être vous parlera encore si vous avez une bonne mémoire, c'est le phénomène médiatique qui a été Uri Geller, personnage qui est toujours en vie, hein, d'ailleurs, qui est un gars qui prétend toujours avoir la capacité de tordre des métaux par le pouvoir de l'esprit. Alors il y a plein de vidéos en ligne, vous pourrez en regarder, j'ai hésité à vous en mettre une, mais c'est pas très très important en soi. Mais donc c'est un monsieur qui, en prenant du matériel métallique, dit être en mesure, en projetant son esprit, en lui intimement de fondre. Alors il pense à ça dans sa tête, fond, fond, fond pour le métal, ou tord-toi, tord-toi, et au bout d'un moment la cuillère se tord, la fourchette se tord, la louche se casse, enfin, il arrive à péter comme ça des objets, ce qui n'est pas très pratique dans la vie courante, j'imagine, mais en tout cas il dit qu'il est capable de faire ça. Et quand il est passé à la télévision, évidemment ça a été un boom médiatique monstrueux, et tout le monde s'est emparé de ça en disant, vous voyez, on a enfin des preuves de la psychokinèse, c'est-à-dire de l'impact de l'esprit humain sur la matière à distance, sans transfert d'autre chose que de la volonté d'un individu. Alors c'est pas le seul, on en a eu un en France aussi, qui est toujours en vie aussi, qui s'appelle Jean-Pierre Girard, que j'ai rencontré une fois, mais lui dit ne plus avoir de dons maintenant, donc on ne peut pas monter de test avec lui. Uri Geller, lui, il est aux États-Unis et il fait fortune avec ses capacités, comme il dit. Alors Brock, le départ un peu de la démarche zététique, ça a été de se rendre compte que ces étudiants, à l'époque, qui étaient un peu de votre génération à vous, c'est-à-dire des étudiants, à l'époque c'était le premier cycle qui s'appelait le DEUG, il s'est rendu compte que quand il faisait des tests d'évaluation selon les étudiants, est-ce que telle ou telle théorie est plutôt prouvée, invalidée, foireuse, acceptable, plausible, etc. Il s'est rendu compte que, alors qu'il y avait des choses qu'ils étudiaient en cours et qui sont prouvées depuis longtemps, comme la dilatation relativiste du temps, je ne sais pas si vous voyez bien là, quand il comparait ça avec des choses qui étaient très médiatiques, comme la torsion des métaux par le pouvoir de l'esprit, il obtenait des résultats complètement incroyables, quoi. Par exemple, 68% des étudiants, il en avait à peu près testé 200, je crois, considéraient la torsion comme quelque chose de prouvé scientifiquement. Alors qu'en contraposé, vous voyez, il y avait plus la moitié des étudiants à interroger qui considéraient que la dilatation du temps était une pure spéculation théorique. Là, il s'est dit, il y a un problème, en fait. Et ils ont été plusieurs à se dire ça, il y a un problème. Il faudrait qu'en fait, les prétentions extraordinaires puissent faire l'objet d'une investigation scientifique comme les autres sujets, et qu'on creuse dessus, et qu'on monte des protocoles dessus, qu'on vérifie, et on ferait d'une pierre deux coups, enfin, d'une pierre trois coups, même premier coup, ça nous permettrait de savoir, et éventuellement mettre la main sur un phénomène étrange ou paranormal. La deuxième chose, c'est que si on ne met pas la main sur ce phénomène, on comprendrait pourquoi on a adhéré à cette idée-là ou à ce phénomène-là, ce qui nous en dirait long sur notre esprit. Et la troisième raison, c'est que comme ça, on pourrait cultiver un peu l'esprit critique des étudiants en leur donnant des routines, des sortes de routines de doute, mais de doute raisonnable, rationnel, appliqué aux informations qui leur sont délivrées, quoi. Et c'est là que ça nous amène, nous, petit à petit, à, on va dire, le troisième sens un peu élargi du mot zététique, c'est-à-dire une autodéfense intellectuelle, qu'elle soit... Alors le rêve, franchement, le rêve intime que j'ai, c'est que les critiques qu'on va faire sur des sujets qui sont un peu... funky et sympa et tout, petit à petit on va les déplacer sur des sujets qui sont plus graves. On parlera probablement de certaines formes de complotisme ou de certaines formes de négationnisme ou de certaines formes de pseudo-médecine qui ont pourtant pignon sur rue, par exemple, et ça peut parfois soulever quelques réactions. Mais le rêve, c'est que vous puissiez appliquer ça au journal télé de TF1 ou à Pujadas quand il vous délivre une information ou quand vous lisez sur un site internet une information qui vous paraît étonnante, que vous puissiez douter même des politiciens qui vous parlent, surtout dans un contexte d'élection comme cette année. Douter rationnellement des informations qui vous sont données. Douter, ça ne veut pas dire rejeter en bloc ou se dire qu'il y a derrière, il y a un complot illuminati qui dirige le monde. Hein. C'est le faire de manière vraiment méthodique, se dire, tiens, d'où viennent les chiffres, quels sont les faits, comment on vérifie ça, comment on recoupe les sources, etc. C'est à ça que je vais essayer de vous initier, si tant est que vous ne le soyez pas déjà un petit peu. Alors, il y a eu plusieurs sortes de sondages qui ont été faits au cours des âges, et sont à peu près cohérents. Là, je vous ai mis un des plus gros qui avait été fait, c'était en l'an 2000, au ministère de la Recherche avait commandé à la Sofres un questionnaire qui n'est pas terrible pour ceux qui sont en sociaux, ils s'arracheraient les cheveux, parce que, ou en psychocognitive, ils savent bien que j'y crois ou j'y crois pas, c'est pas très très clair. N'empêche que les gens y répondent à ça. Et donc on leur demandait, par exemple, est-ce que guérison par les magnétiseurs ou imposition des mains, est-ce que vous y croyez ou pas? Et on se rend compte que ça score plutôt assez haut, comme on dit, et que plus de la moitié des individus interrogés, sur un panel très large, adhère à sa transmission de pensée. Puis vous voyez, j'ai mis des trucs un peu dégressifs. Il y a des choses qui sont un peu perdues, qui sont un peu moins à la mode. Je pense aux tables tournantes, par exemple. Il m'arrive encore d'avoir quelques étudiants qui ont fait parfois... Vous voyez ce que c'est, les tables tournantes, les tables... Vous avez souvent une... Soit c'est des tables qui bougent parce qu'on convoque un esprit et la table bouge, soi-disant parce que l'esprit a pris possession de la table. Soit on peut passer par des tablettes Ouija, c'est-à-dire des tablettes en bois sur lesquelles il y a des lettres, et ensuite on communique au moyen d'un verre, tout le monde pose le doigt sur... Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde met le doigt sur le verre, on convoque l'esprit, on fait ça dans le noir avec des bougies, ça fait un peu flipper et tout, c'est trop bien. Et puis le verre est censé se déplacer et indiquer un message, délivrer un message qui viendrait de l'esprit qu'on a convoqué. Ce sont des méthodes qu'utilisait notamment Victor Hugo, il s'est amusé à faire ça pendant un long moment. C'était la mode de ce qu'on appelait la religion spirit dans les années 1850-1860. Lyon était un grand centre spirit, d'ailleurs, avec un personnage qui s'appelle Allan Kardec, pour ceux qui connaissent. Mais bon, les tables tournantes, c'est un peu passé de mode, à part pour quelques lycéens qui s'ennuient. Les fantômes et les revenants aussi, ça passe un petit peu de mode. Mais il reste des choses quand même qui sont très prégnantes. Et vraiment, la capacité de guérison par les mains ou à distance, il y a pas mal de méthodes de thérapie dite manuelle qui sont très, très en vogue maintenant. Vous avez aussi des modes un peu nouvelles comme les barreurs de feu, des gens qui sont en mesure de... qui disent être en mesure de faire disparaître vos brûlures à distance, parfois par téléphone même. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a des modes, vous voyez, il y a parfois des modes. Souvent, ce sont des modes qui nous viennent des États-Unis. Généralement, les États-Unis ont une forte influence sur nous, et nous, on recopie les croyances auxquelles ils adhèrent. En ce moment, la mode aux États-Unis est aux abductions, par exemple, aux enlèvements par des soucoupes volantes. Des gens disent avoir été enlevés par des soucoupes volantes. Il y a même, d'ailleurs, ça me fait mourir de rire, il y a une association qui s'est montée de gens non abductés qui aimeraient bien l'être. Vous voyez, qui... S'il vous plaît. Venez me chercher. Et donc, je pense que ça va arriver aussi dans pas longtemps. Enfin, il y a déjà des cas à Grenoble, hein, mais ce n'est pas très, très fréquent. Et je pense que ça va arriver bientôt. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a un grand nombre de croyances relativement étranges qui circulent. Et quand vous aurez fréquenté un peu ces réflexions-là, vous verrez qu'il y a beaucoup de discussions. Je ne prends jamais le bus ou le tram ou le train sans me retrouver à côté de quelqu'un qui ne parle pas d'une manière ou d'une autre d'un sujet un peu ésotérique ou mystique ou... aux frontières du réel, comme on dit. Et en fait, c'est des sujets qui stimulent toujours, quoi. Et je me rappelle d'avoir eu, quand j'étais plus jeune, une espèce de vision un peu, je dirais, post-coloniale. Je pensais que, par exemple, s'il y avait bien un berceau de croyances diverses, où des gens étaient vraiment très empreints de diverses croyances un peu bizarres, ça devait être l'Afrique. Et je me suis retrouvé à vivre 2 ans en Afrique de l'Ouest. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le nombre de croyances qu'il y avait là-bas et le nombre de croyances qu'on a ici est à peu près similaire, en fait. Les formes sont parfois un peu différentes. Mais en fait, nous sommes un public particulièrement... enclin à adhérer à des croyances tout à fait bizarres. Et puis les médias nous entartinent de bonnes couches, quoi. Entre les 30 histoires les plus mystérieuses, normales, paranormales, enfin toutes les émissions. Sans parler des vidéos de fantômes qui circulent sur YouTube et autres. C'est sans arrêt. Ce qui est étonnant, par contre, c'est de constater que l'adhésion à ces théories-là, elle n'est pas corrélée au niveau d'études. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens qui ont fait beaucoup d'études sont généralement un peu moins enclins à adhérer à tout et à tout. Mais par contre, ceux qui en ont peu fait adhèrent pas trop non plus. Par contre, il y a une frange un peu au milieu comme une bosse, quoi. Et les gens qui ont fait des études intermédiaires ont tendance à pas mal adhérer. Donc ça veut dire que c'est pas des hautes études qui vous garantissent de ne pas adhérer à des théories saugrenues, quoi. Distinction difficile entre science, non-science et pseudo-science, c'est pas évident à faire de prime abord. On sait pas trop faire. D'ailleurs, j'ai oublié un C à science, j'ai honte, pardon. Et enseignants et étudiants scorent assez haut sur les échelles de croyances. Alors ça, c'est étonnant, mais quand on regarde les catégories socio-professionnelles des gens qui adhèrent plus ou moins au paranormal dans son ensemble ou à certaines théories, notamment médicales, un peu bizarres, les profs sont surreprésentés, les instits sont surreprésentés et les étudiants sont pas mauvais non plus. Donc, ce sont des cas intéressants. Voilà, le sens élargi, ça donne ça. On réinvente pas la pluie. Il y a une tradition de recherche méthodique quand même qui existe depuis longtemps. Je vous ai mis quelques personnages comme ça qui représentent un peu ce. Certains ont utilisé le terme de libre examen. Certains parlent de pensée critique. Certains parlent d'hygiène préventive du jugement. Alors, je vous ai mis le philosophe et mathématicien Bertrand Russell, sur lequel il y a une excellentissime BD qui est sortie il y a pas très longtemps, qui s'appelle Logicomics, pour ceux qui connaissent pas. Ici, c'est Jean Rostand qui était un herpétologue, c'est-à-dire un spécialiste des grenouilles, et qui a défendu aussi une lecture rationaliste de ces phénomènes-là. Et puis peut-être que vous avez entendu parler de Noam Chomsky, le linguiste et politologue qui le terme d'autodéfense intellectuelle, on lui doit en quelque sorte. Il disait que les principales courroies des grandes propagandes, parce qu'il y a des propagandes liées à des phénomènes un peu anecdotiques, on va dire. Puis il y a des grosses propagandes qui ont des gros impacts en termes de vie humaine. Je pense à des propagandes de guerre, par exemple. J'ai ma collègue Clara Eger qui m'a aidé à composer un cours sur la propagande de guerre aux États-Unis et en France. Et c'est stupéfiant, quoi, de voir que les intellectuels, même, c'est-à-dire des gens qui font profession de leur cerveau, hein. Intellectuels, ça ne veut pas dire qu'ils sont brillantissimes, hein. C'est des gens qui font profession de leur cerveau. Les intellectuels sont des courroies de transmission de ces propagandes-là. Et donc, il disait, toute université, c'est la phrase de Chomsky, toute université devrait se doté de cours d'autodéfense intellectuelle. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit, alors faisons-le, allez hop, et c'est comme ça qu'on a monté nos cours. Je remercie au passage Claudine Kahn, car c'est elle qui avait permis de faire le premier cours de ce type-là sur le campus de Grenoble. Et Normand Baillargeon, alors lui, peut-être vous le recroiserez de temps en temps, il publie beaucoup, il fait d'excellents bouquins, il fait d'excellents articles, des interventions à la radio aussi. Il est québécois, avec un petit accent... mais l'accent, vous savez, c'est quelque chose de très relatif. Est-ce que ce ne serait pas nous qui aurions un accent? Vous voyez, enfin, c'est ce que disent souvent les Québécois d'ailleurs. Est-ce que c'est pas nous qui avons un accent pointu, ou est-ce que c'est eux qui ont un accent étonnant? Est-ce qu'il y a plusieurs accents? La notion d'accent, en fait, c'est quelque chose de très subjectif, puisqu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes de français bien parlé ou mal parlé. Donc c'est un faux problème en quelque sorte. Donc Baillargeon, voilà, qui est plutôt engagé libertaire, si vous voulez, sa position politique, et qui s'en sert pour creuser des sujets notamment de pédagogie alternative et autres. Voilà. Les champs d'investigation classiques. Commençons notre petite promenade. La petite promenade, elle n'est pas très très compliquée. Je m'étais amusé dans les années 2011-2013. Là, j'avais échantillonné sur des étudiants. Je m'étais servi de vous, quoi. Enfin, j'avais dit, tiens, selon vous, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie du paranormal ? Et en fait, c'était le bordel. Voilà, c'était le festival. Il y avait plein de sujets. Alors ici, je ne vous ai pas mis la pondération pour chacun, mais je vous ai mis en blanc ceux qui revenaient le plus souvent, et en jaune ceux qui revenaient, mais un peu moins. Et je vous ai mis en rouge une, par exemple, qui a complètement disparu. La fin du monde en 2012, tout le monde a lâché l'affaire, quoi. Vous comprenez pourquoi. Mais bon, soyez rassurés, ça fait 150 fois qu'on nous annonce des Armageddons et des fins du monde. Il y en a encore une prévue pour 2019, une pour 2021. Je crois qu'il y en a une 2027. Enfin, on en aura d'autres, quoi. D'ailleurs, les étudiants de septembre 2012, je leur disais, mais pourquoi vous venez si c'est la fin du monde, en fait, bientôt là, allez faire la fête plutôt pendant 3 mois. Et puis ils sont venus quand même en cours, ce qui montre qu'ils y croyaient, mais pas trop quand même, quoi. Alors dans les sujets qui reviennent souvent, radiesthésie, l'utilisation du pendule pour rechercher des objets disparus, comme le professeur Tournesol dans Tintin, pour ceux qui ont déjà vu, la télépathie, transmission de pensée à distance, les magnétiseurs dont j'ai déjà parlé. Et puis vous avez des sujets qui sont un peu transverses comme les ovnis, les objets volants non identifiés. Alors en soi, un objet volant non identifié, c'est pas quelque chose de paranormal, si vous voulez. J'imagine que derrière ça, ils pensaient plutôt à des objets volants non identifiés d'origine extraterrestre. Ça, c'est intéressant. Parce qu'un objet volant non identifié, vous prenez, je sais pas moi, un chaton, vous le lancez, vous faites une photo. Il faut pas faire ça, hein. C'est puni par la loi. Mais bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire ça, qui a été puni récemment. Il lançait des chatons. Quelle idée. Bon, voilà. Et donc, si vous, c'est pas intéressant, un objet volant non identifié. Ce qui est intéressant, c'est s'il est d'origine extraterrestre, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Les sorties de corps, c'est ce qu'on appelle parfois en sigle anglais les OBE, Out of Body Experiences. Les NDE, ce sont les Near Death Experiences, les expériences de mort imminente, des gens qui presque meurent, ils meurent presque, et hop, ils reviennent et témoignent d'avoir vu un tunnel ou une forme un peu cylindrique au fond de laquelle il y a une lumière et des proches qui les attendent, etc. Puis hop, ils reviennent, ils racontent ça. Les Illuminati qui sont bien à la mode, là, je pourrais rajouter depuis quelques années les reptiliens. Je pense que vous avez entendu parler des humanoïdes reptiliens qui... Barack Obama serait un reptilien. Mais peut-être moi aussi, qui sait. Voilà, et puis vous avez la voyance, de manière un peu générale, qu'on confond parfois avec la médiumnité. Bon, le mentalisme qui était indiqué, je pense que c'était à cause de la série Le Mentaliste qui sortait à ce moment-là. Le mentalisme, il faut bien se comprendre, il n'y a rien de paranormal dans le mentalisme. En soi, c'est une catégorie de prestidigitation. C'est des méthodes, un agglomérat de méthodes qui permettent de faire une sorte de magie, de spectacle, quoi, qui permet de donner l'impression au spectateur qu'on est en train de lire en eux, en train de dire des choses sur eux, en train de détecter des choses qu'ils n'auraient pas dit, etc. et éventuellement de prévoir des choses qui pourraient leur arriver. Je m'excuse pour ceux qui sont sur les côtés, je ne peux pas trop vous regarder parce qu'en fait, il y a des phares qui me crament la gueule et donc je ne peux pas vous voir. Donc salut, pardon si je ne vous regarde pas trop. Voilà. Et puis il y a des thèmes un peu... Alors voilà, par exemple, il y a les francs-maçons. Ça, parfois, on peut être étonné de voir les francs-maçons là. Les francs-maçons, il n'y a rien de paranormal chez les francs-maçons. En fait, c'est le côté un peu caché, si vous voulez, le côté non-dit du fait qu'il y a des groupes francs-maçonniques qui... Il y en a plein à Grenoble, hein, d'ailleurs, hein, et qui sont faciles... Enfin, ils sont faciles d'accès. Il vous suffit d'aller frapper à la porte de la Grande Loge nationale ou du Grand Orient et vous pouvez leur demander. Il y a même... Il y a des ordres mystiques aussi à Grenoble. Si vous allez à l'espace Saint-Martin, il y a la Morque, l'ancien ordre mystique rénové de la Rose-Croix. Vous pouvez aller les voir et discuter avec eux si vous avez envie. Il y a le Loch Ness. Alors le Loch Ness non plus, c'est pas paranormal, c'est un lac. Bon. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il y aurait potentiellement un stremon, comme on dit, un monstre, quoi, une bestiole qui serait dedans. Qui résiste à toutes les investigations, d'ailleurs, je vous en reparlerai éventuellement. Le Yeti, pareil, Yeti, Bigfoot, Sasquatch et autres bestioles bizarres, poilues, qui se promènent parfois dans des campagnes très reculées ou dans des montagnes, comme au Tibet, par exemple. Et puis l'étape tournante, j'en ai parlé, la réincarnation, etc. Puis il y a plein d'autres sujets, vous voyez, c'est très très vague. Il y a aussi bien l'homéopathie que les pyramides d'Égypte. Alors les pyramides d'Égypte, on sous-entend évidemment la méthode qu'on a utilisée pour les construire... Aurait-elle fait l'objet d'une aide paranormale ? Aurait-elle fait l'objet d'une aide d'extraterrestre ? C'est notre version. Aurait-elle fait l'objet de semi-dieux qui seraient venus prêter main forte ? Ou alors avait-il à l'époque des méthodes que l'on a perdues depuis ? Voilà. C'est toute une branche de ce qu'on appelle l'archéofiction qui s'est développée et qui a repris un goût. C'était bien la mode dans les années 60, ça. Il y avait les collections aventures mystérieuses, là, des petits bouquins rouges, il y en avait une tonne, vous en trouvez encore dans les brocantes. Ça a un peu disparu, puis là, il y a eu un gros documentaire qui est sorti, qui est le Festival des biais possible et imaginable, qui s'appelle La Révélation des pyramides. Je ne sais pas si vous avez vu ça, sorti en 2012 ou 2013. Et je crois qu'un quart d'heure de ce documentaire peut suffire à faire un excellent dossier, tellement il y a de biais de raisonnement, de sophismes, de traquenards. Le documentaire dure presque 2 heures. Et c'est un exemple parfait de pseudoscience, ce documentaire. Et dedans, vous avez des choses qui sont parfois, bon, je vois, guérison par les plantes. Oui, effectivement, on peut guérir certaines choses avec certaines plantes, pas toutes. Il y en a certaines avec lesquelles on peut mourir aussi, donc faites gaffe aux plantes quand même. Il y a des plantes qui sont pas cool du tout. Il y en a certaines avec lesquelles on peut, qu'on dit entéogènes, qui permettent de voir Dieu, soi-disant. Si vous fumez de la Salvia Divinorum, n'y voyez pas un encouragement de ma part, mais vous pouvez avoir des effets qui sont proches des effets de la psilocybine des champignons hallucinogènes. Voilà. Si vous faites une infusion de muguet, vous risquez de mourir. Si vous prenez de la digitale pourpre, vous pouvez mourir aussi. Enfin, y a plein de plantes qui ne sont pas cool, mais effectivement, il y en a d'autres qui fonctionnent pour certaines choses, moyennant une dose. Alors, certaines plantes permettent de guérir certains trucs, mais moyennant qu'on mange une botte de cette plante. Alors, une botte, c'est un peu gros, quoi. Donc, c'est pour ça que des fois, on réduit ces plantes et puis on en fait un comprimé. C'est comme ça que les médicaments sont nés, en quelque sorte, si vous voulez. Donc voilà, c'est des paquets qui sont un peu flous et on voit qu'en fait, c'est plutôt une manière d'en parler qui fait le paranormal. C'est plutôt une manière un peu étrange. On se dit, tiens, il y a le chamanisme, il paraît qu'il y a des gens qui ont accès à... Ah bon, qu'est-ce que... Ah, et l'hypnose, oh là là, les crânes de cristal. Bon, je pense que vous connaissez tout ça. Et puis les coïncidences qu'on voit tous les jours et qui nous disent, tiens, est-ce que peut-être qu'il y aurait quelque chose en filigrane déjà écrit qui ferait qu'à des moments précis de notre existence, nous croiserions tel ou tel fait et hop, ça fait écho à un machin pile au même moment. Et oh, on se dit, mon Dieu, peut-être une coïncidence étrange, peut-être y a-t-il une synchronicité, comme disait Carl Jung. Bref, voilà une manière d'en parler qui fait le paranormal, c'est le bordel. Voilà, en gros, c'est un joyeux bordel.